avec N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous.
Vous avez l'air essoufflé et un peu transpirant, mon cher Laurent.
Oui, c'est le vélo et puis le soleil qui fait ça, sortant du cinéma.
C'est compliqué parce qu'au cinéma, on est bien installé, oui. au frais, parce que maintenant c'est important.
Oui, parfois et même puis... on s'endort sur certains films. Ouais.
Vous ne nous direz pas lesquels aujourd'hui.
Non, on va être gentil.
Oui, mais en tout cas, vous avez quelques films à nous conseiller à voir à la télé, combien ?
Oui, la télévision déroule le tapis rouge. J'aimerais bien que ce soit chaque semaine comme ça, mais là, il y a 7 films à voir cette semaine à la télévision, pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller au cinéma ou d'être à Cannes.
C'était comme ça la semaine dernière aussi. Hein.
Exactement, oui, mais c'est l'effet Cannes.
C'est l'effet Cannes.
On se met à passer de bons films, et si ça pouvait être tout le temps comme ça pendant 52 semaines, ça serait quand même mieux.
Oui, beaucoup mieux. Est-ce que vous avez un conseil de lecture à nous proposer ?
Un petit conseil Blu-ray.
Ah, c'est Blu-ray, voilà. Ce soir.
Il est tout chaud, il vient de sortir, là.
Il faudra laisser la télé allumée, mais allumer son lecteur Blu-ray.
Oui, vaut mieux aussi.
C'est plus prudent. Avec nous également, il est là. Vous l'entendez respirer. Il a enfilé son bleu de travail, celui qui le permet d'entrer dans l'atelier de la mécanique cinématographique, puisque dans son retour de manivelle, il nous parle d'un film, d'un grand film. Guillaume Sidom, bonsoir.
Eh bien, bonsoir à tous et à toutes.
Faites-nous rêver.
Oh, un film noir, peut-être un des plus grands films sur Hollywood, et c'est à découvrir ou à retrouver ce soir. Dès ce soir, 21h à la Cinémathèque de Toulouse.
Ah, dès ce soir, dites-moi. Mais il faut que vous restiez avec nous jusqu'à 20h. Hein. Ne partez pas vous avant 20h.
Voilà, vous avez le temps.
Et puis après, vous pourrez aller à la Cinémathèque. Vous aurez largement le temps pour arriver à l'heure et vous installer confortablement. Ah, ils ont de belles salles maintenant à la Cinémathèque. On va en parler dans quelques instants. Juste, je continue de regarder avec vous le contenu du panier de l'ouvreuse. Nous retrouverons bien sûr notre homme de loi des séries qui ouvre une nouvelle fois son tribunal. Et ce soir, Grégory Com va parler de The Boys, une série sur Prime Video, pardon, qui a débuté en 2019 et qui voit sa 5e saison et dernière s'achever dans les jours qui arrivent. Et Grégory Com, j'ai l'impression que il a revêtu son costume de procureur, mais ça c'est pour tout à l'heure. The Boys avec Grégory Com. Et puis nous regarderons, en tout cas c'est surtout Laurent Martin et l'ouvreuse qui vont scruter l'affiche de la semaine. Alors un peu de films cannois, bien sûr, parce qu'il y en a quelques-uns qui sortent sur nos écrans, et puis l'affiche de la semaine qui, il faut bien le dire, alors là, autant c'est riche au niveau du cinéma à la télé, oui. Sur le grand écran, c'est plutôt pauvre, parce qu'il y a peu de nouveaux films cette semaine, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, avec quand même un gros mastodonte qui sort.
Un gros mastodonte, ouais. Signé Jon Favreau, on va y venir. Ouais. Mais les critiques sont très partagées. Hein. On ne peut pas dire que ça va être le meilleur de la saga. Enfin, on y sera, on en parlera tout à l'heure. Après quoi, avoir scruté l'affiche de la semaine, nous regarderons les reprises à voir sur le grand écran. Et puis, il y aura des coups de cœur, parce qu'on a toujours des films, des manifestations, les films qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Et pour les manifestations, il faut que vous vous y rendiez. Et puis, last but not least, il est avec nous, Franck Lubet, programmateur de la Cinémathèque, et qui vient nous parler de ce qui nous attend à la Cinémathèque, ce qui attend les spectateurs jusqu'au mois de juin, le moment où ils installeront l'écran dans la cour pour le cinéma en plein air. Bonsoir Franck Lubet.
Bonsoir Louis-Marie.
Comment allez-vous ?
Je vais très très bien, surtout quand Laurent dit qu'il n'y a rien à voir en salle, donc venez à la Cinémathèque,
bah oui,
il n'y a que du bon.
Exactement.
Et là, c'est toute l'année.
Ah ben oui, il y a aucune
faute. Ça sent un peu la peinture encore, mais bon.
Oui, ah, ça va. Ça sent le neuf, effectivement, il y a peu de temps. Hein. La Cinémathèque rouvrait ses portes, c'était mi-avril. Oui. Et maintenant, elle a retrouvé un peu son rythme de croisière. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut dire, Franck Lubé ?
On peut le dire comme ça, exactement.
Avec quelques beaux programmes, il y a Pop. Alors vous nous direz ce que ça signifie. Billy Wilder, ça c'est facilement compréhensible. Seijun Suzuki, c'est un réalisateur moins connu que Billy Wilder, mais tout aussi intéressant. Anya Breen, elle aussi est moins connue des spectateurs et bon, les cinéphiles la connaissent, mais les spectateurs français la connaissent moins. Et puis Rossi de Palma, qui elle a eu une carte blanche.
Oui.
Et qui a assuré la programmation puisque elle vient parce que
C'est dans le cadre du Nouveau Printemps. Voilà, c'est le partenariat avec le Nouveau Printemps et comme elle est artiste associée du Nouveau Printemps, c'est elle qui travaille justement toutes les expos et donc Rossi de Palma forcément c'est lié au cinéma donc on lui a proposé de faire une carte blanche en fait et de venir présenter quelques films.
Oui, Rossi de Palma, on va en parler, mais c'est l'actrice de la Movida, c'est l'actrice de Pedro Almodovar. Les films de Pedro Almodovar l'ont révélé au grand public.
Oui, voilà, elle n'a pas fait que des films d'Almodovar, mais c'est vrai que c'est quand même, elle est très liée à Almodovar. Ouais.
Et donc elle proposera quelques films à voir.
Oui, l'idée étant que ce soit à la fois des films dans lesquels elle a joué et des films dans lesquels elle n'a pas joué mais qui sont chers à son cœur. Donc ça c'était aussi important dans les discussions avec Rossi d'avoir aussi, même elle au départ en fait elle voulait même pas présenter de films dans lesquels elle jouait. Mais bon, je lui disais que quand même elle était un peu attendue aussi pour ça. Les gens avaient aussi envie de la voir quand même sur l'écran, donc on a panaché.
Dites-nous un mot aussi sur Anya Breen.
Anya Breen, ouais.
Je ne sais pas si je le dis bien d'ailleurs.
Moi non plus, je ne sais pas. Mais Anya Breen, c'est une cinéaste danoise, norvégienne, et qui est décédée la semaine dernière. Et c'est une cinéaste. Alors c'est un raccourci peut-être un peu rapide parce que c'est ça, mais ça va beaucoup plus loin. On peut dire vraiment féministe. Qui a fait des films qui posent la question de la place des femmes dans la société, le jeu de dupes qu'il peut y avoir aussi pour des questions morales, etc. Donc qui vont aussi engager finalement les hommes. C'est un regard qui est vraiment très 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 fin sur comment les relations peuvent fonctionner et c'est aussi une très très grande cinéaste au niveau de sa maîtrise de la mise en scène. Moi, je vous invite à découvrir ce qu'on appelle la trilogie Wives, qui est peut-être de sa filmographie les trois films les plus connus. Donc Wives, en 1975, elle fait un film en écho, en réponse aux Husbands de John Cassavetes. Et en fait, elle part avec trois actrices et un petit peu sur le mode un peu improvisation, cinéma direct. Et donc, trois actrices qui incarnent trois personnages féminins qui se retrouve lors d'une fête de retrouvailles d'anciennes d'un lycée et qui ne rentrent pas chez elles ensuite et qui partent sur 2-3 jours comme ça de un peu d'évasion, un peu côté un peu festif. Et là où c'est, alors le film est vraiment très très frais, date de 75, et elle fait un deuxième film 10 ans plus tard, 85, avec les mêmes actrices, elles ont et un troisième film en 95, elles ont 30 ans dans le premier, 40 dans le deuxième et donc 50 dans le troisième. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que on retrouve ces actrices. Il y a le vieillissement forcément de ces actrices à des âges différents et à des époques aussi différentes entre les années 70, les années 80, les années 90. Comment la place des femmes a pu évoluer, si elle a évolué, tout ça étant lié aussi à quelque part aux propres réflexions des protagonistes qui forcément évoluent aussi en fonction de leur âge, c'est absolument génial. Enfin, c'est vraiment, moi, c'est ça fait partie des films qui m'ont retourné de cette année. C'est une, on est vraiment embarqué avec elle. Il y a tout un jeu comme ça d'improvisation. C'est drôle, c'est mordant. C'est ça peut être triste aussi par moment et ça joue comme ça sur les aussi sur les générations. C'est voilà, c'est absolument fascinant. Donc je vous invite à la découvrir. Peut-être que je vais pas m'attarder trop parce que je pourrais pas faire toute l'émission pour parler d'Anya Breyen, mais déjà commencez par ces trois films là et mais venez voir aussi le reste parce que il est dans un registre complètement différent avec une caméra beaucoup plus posée. Des films très picturaux, alors que là on est plutôt dans le mouvement avec les Wise. Donc c'est vraiment une cinéaste très très complète. Et c'est vraiment, c'est, enfin tout est bon chez Anya Breyen. C'est une cinéaste qui est passée, bah, qui est passée à l'as dans l'histoire. Ses films ont été présentés hein, dans des festivals,
oui.
Mais à part le Wives, le premier, aucun n'a été distribué en France. Donc c'est vraiment c'est l'occasion de la découvrir, puis peut-être aussi de rendre hommage à son travail. Je vous rappelle qu'elle est décédée donc la semaine dernière. Voilà, donc une pensée pour elle, et voilà, je vous invite vraiment à la découvrir.
C'est le moment ou jamais de le faire, Anya Breyen, et vous avez jusqu'au 4 juin
ouais.
À la Cinémathèque pour découvrir ces films, Wives en particulier, mais les autres. Et c'est sur le site de la Cinémathèque de Toulouse.com, vous aurez le détail des projections et les jours où ces films sont projetés. Pour le moment, on revient à l'atelier de notre ami Guillaume Sidom, mais avant, assistons à une projection tout de suite. Alors regardez bien en bas de votre poste parce que c'est une version originale et il faut lire les sous-titres.
This is the staircase of the palace.
Oh yes, yes. Down below, they're waiting for the princess. I'm ready.
All right, cameras, act!
Les spectateurs attendent une princesse et la voilà qui descend l'escalier. Alors qu'on est en train de la filmer, ou pas, mais en tout cas, vous allez tout nous raconter, Guillaume Sidom.
Ah oui, pour Boulevard du Crépuscule, Sunset Boulevard, version originale de Billy Wilder, sorti en 1950, un film culte, un film noir, qui a marqué l'histoire du 7e art. C'est évidemment un des plus grands films du réalisateur, son 9e film, mais en le revoyant, ça pourrait être très bien son premier, un film majeur dont le propos résonne aujourd'hui d'une manière incroyable. C'est d'une modernité, ça nous parle dans les années 50 comme ça nous parle aujourd'hui. Hollywood est une machine qui prend les gens, qui va les monter sur un piédestal, qui les fait devenir fous, qui les isole et qui les rejette. Un film qui décortique évidemment la machine de la célébrité, la valeur suprême du 20e siècle, mais aussi celle du 21e. Et 75 ans plus tard, rien n'a changé. La machine est toujours plus implacable qu'auparavant. Autre sujet fort du film, évidemment, la place des femmes dans le pouvoir de la célébrité. Sujet d'une actualité folle, le personnage de Gloria Swanson a 50 ans, elle est rejetée déjà. L'histoire d'une grande artiste du muet qui cherche à relancer sa carrière, une romance qui va dépeindre aussi les travers du monde hollywoodien. Pourquoi voir ou revoir ce classique parmi les classiques? Pour vous mettre l'eau à la bouche, je vais vous proposer ce soir quelques anecdotes. Mais avant, chef-d'œuvre du film noir, Sunset Boulevard résume donc toute la cruauté d'Hollywood. Cela commence d'ailleurs très mal. Un scénariste est retrouvé 3 balles dans le corps dans une piscine filmée au fond de cette dernière. Un plan de caméra absolument hallucinant, je vous laisse le découvrir. Le gars s'appelle Joe Gillis, joué évidemment par William Holden, et c'est lui qui va donc raconter comment il est arrivé à ce point de non-retour, sans travail ni argent, Il accepte les avances en espèces et en nature de Norma Desmond, jouée par Gloria Swanson, star du muet, désormais mise au rencard mais bercée par ses illusions et par son fidèle majordome Max, joué par Eric von Stroheim. Von Stroheim, qui d'ailleurs dirigea Gloria Swanson dans Queen Kelly de 1928, projeté pour l'actrice dans Sunset Boulevard.
C'est merveilleux, reprend-elle, et sans dialogue.
Eh oui, Gloria Swanson, toute star qu'elle n'est pas très talon aiguille, mais plutôt semelle compensée, nettement moins glamour, mais surtout plus confortable dans les escaliers. Vous en aviez parlé, Lumari, que la vedette à la hantise de dévaler sur les fesses. Du coup, eh bien, pour la séquence finale où elle doit les descendre avec un regard halluciné face caméra et donc sans jamais baisser les yeux, elle préfère carrément être pieds nus. Et à ce moment-là, vous savez que son personnage va être embarqué par la police et qu'elle va donc se retrouver au poste sans chaussures, mais cela ne choque absolument personne. Ce qui choque tout le monde par contre, c'est que Gloria Swanson ne gagne pas l'Oscar qui lui était pourtant promis et n'obtient plus jamais de proposition intéressante pour ce film et elle de proclamer haut et fort « Je suis une grande star, ce sont les films qui sont devenus petits, toute la cruauté d'Hollywood ». Boulevard du Crépuscule remporte malgré tout 3 Oscars, hein, meilleure direction artistique, meilleure musique, signé Franz Waxman que vous allez entendre à la fin de ma chronique, et meilleur scénario.
Voyez ou revoyez Sunset Boulevard pour le décor de film d'horreur.
Voix off, femme fatale, destin implacable, Sunset Boulevard est présenté donc comme un monument du film noir, je l'ai dit, mais c'est en effet surtout un remarquable film d'horreur. C'est un lieu hors du temps, hanté par une star déchue qui va rejouer ses grands rôles de jadis. Pour le cynisme de Billy Wilder également, avant Sunset Boulevard, jamais œuvre aussi corrosive n'a été réalisée sur Hollywood. Et pour Wilder, eh bien, l'usine à rêve d'Hollywood, justement, est une fabrique de monstres à l'ego surdimensionné. Prenez l'exemple de Norma Desmond, donc, quand elle rencontre le despotique CCB2000 dans son propre rôle, sur un vrai plateau de la Paramount, tournant vraiment Samson et Dalida, eh bien, le plus affreux des deux n'est alors pas forcément celui que vous croyez. Film noir, drame de la folie, implacable mise en abîme des vanités de l'usine à rêve. Et enfin, pour Eric von Stroheim, bouleversant dans cet univers mortifère, le personnage le plus attachant reste peut-être Max von Meyerling, le valet polyvalent de Norma Desmond, qui est en fait un ancien réalisateur de films muets. Il est incarné avec une sobriété absolue donc par Eric von Stroheim, dont le charisme est extraordinaire. Ce personnage, c'est sans doute le fantôme de lui-même. Sunset Boulevard reste sans doute le plus grand film jamais réalisé sur Hollywood. Ce panthéon sans mémoire, vorace et mortifère en un mot et un seul, cruel. À retrouver donc ce soir 21h à la Cinémathèque de Toulouse dans le cadre du cycle consacré à Billy Wilder. Visible lui jusqu'au 28 juin prochain. Retrouvez toute la programmation sur lacinémathèquedetoulouse.com. Également en Blu-ray et DVD chez Paramount. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon. Et surtout, allez au cinéma.
C'est Franz Waxman qui a composé la musique du film de Billy Wilder, Sunset Boulevard.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
Ladies and gentlemen, Placidus Casino Alice Springs presents Miss Mitzi Del Bra, Miss Felicia Jolly Goodfellow, and Miss Bernadette Bassinger, the sisters of the Simpson Desert.
Vous l'avez reconnu, ce thème qu'on découvre et qu'on entend plutôt à la fin du film de Stephen Elliott, sorti en 1994 et qui avait été présenté à Cannes à son époque. Alors, dans une section parallèle, c'était Un certain regard. Ce film, c'est Priscilla, folle du désert. Et Priscilla, folle du désert, c'est un film qu'on peut voir à la Cinémathèque puisqu'il est programmé dans le cycle Pop. Oui, ça convient bien à Pop, Priscilla, folle du désert. Rappelez-nous ce qui a conduit à cette programmation.
À cette programmation, c'était la grande question de... Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a réouvert et que on n'est pas dans une saison complète, qu'on arrive dans une période qui est toujours une période un petit peu difficile en termes de fréquentation des salles obscures, parce qu'il y a les vacances de Pâques et puis ensuite il y a les ponts de mai et puis il y a le soleil qui est là et donc tout le monde veut aller en terrasse ou à la plage ou je ne sais pas où, et donc c'est toujours un petit peu difficile. Et nous on avait très envie de retourner dans nos murs, et deux, on avait envie aussi d'être un petit peu festif. Donc c'est venu de là, en fait, cette idée de pop qui est à la fois du pop art à la pop culture des années 60-70. Alors on va un peu au-delà, mais quand même le gros de la programmation, c'est sur cette période-là. Et donc prendre tout ce qui est pop comme une force esthétique, ce qu'il a été dans l'art, mais jusque même dans les objets usuels, bien sûr la musique et donc le cinéma, forcément. Et donc avec à la fois les couleurs, tout le côté flashy, tout ce qui peut un peu comme ça péter. Et puis en même temps, c'était intéressant aussi parce que c'est une période où l'art a quelque chose vraiment de révolutionnaire, dans le sens où il s'empare des objets usuels, des objets du quotidien, de ce qu'on va appeler aujourd'hui pop culture. Je pense à Roy Lichtenstein, par exemple, oui, qui prend en fait aux comics et qui en fait de l'art contemporain. Donc voilà, c'était tout ça qui nous intéressait, et comment l'art contemporain s'est emparé de la culture populaire pour en faire quelque chose de l'art, véritablement, et comment la culture populaire s'est réappropriée ce qui était l'art, donc les galeries, pour le ramener aussi dans le... quelque part ce qu'était peut-être son giron premier, ce qu'est le cinéma, un art populaire. C'est toute cette dialectique aussi qu'on peut retrouver, mais avant tout c'est quand même plutôt ce qui nous intéressait, c'était quand même plutôt d'aller vers quelque chose de fun. Là j'ai l'impression d'être un peu un télo quand je parle de ça. Bon voilà.
Mais en tout cas Roy Lichtenstein s'était fait plaisir, puisque en fait c'était pas un cinéaste à proprement parler.
Il a même créé un pays, donc
mais on avait oublié ce détail.
Détail important. Mais oui, c'est en fait c'est ce dialogue entre on va dire le côté presque art, enfin vraiment art contemporain qu'on peut retrouver dans le cinéma avec des films qui vont travailler sur les formes, qui vont exploser complètement les codes narratifs, et en même temps tout ce côté vraiment populaire qu'on va aussi réutiliser, réinsuffler finalement dans le cinéma, parce que là on a des choses qui sont plutôt de l'ordre du cinéma dans cette programmation, qui peuvent être de l'ordre du cinéma expérimental, c'est-à-dire qu'on va retrouver aussi Warhol, la Factory, parce que forcément quand on parle de pop art, il y a Warhol aussi qui est là, mais on va retrouver aussi Fantomas.
Oui.
C'est ce grand écart là qui nous intéressait à travers cette thématique, au-delà de toutes les questions que ça peut poser derrière de ces allers-retours que j'évoquais, de aussi d'une société qui est en train de bouger à la fois dans les mœurs, à la fois politiquement. Donc comment finalement le pop amène à quelque chose de révolutionnaire, mais en même temps va être aussi à un moment donné récupéré, va devenir un objet presque de marchandisation. Donc le cinéma rend compte aussi de ça, c'est-à-dire que le cinéma prend au pop, fait le pop, et quelque part va également aussi un petit peu le dézinguer. C'est tout ça qu'on va retrouver dans cette programmation.
Mais oui, surtout que vous allez du point de non-retour de John Boorman à Femme au bord de la crise de nerfs de Pedro Almodovar, en passant donc par Priscilla, Folle du désert, Stéphane Elliott. Donc, c'est très large, effectivement, cet éventail de films, et vous aurez une idée de la pop comme envie de la montrer la Cinémathèque de Toulouse, n'est-ce pas?
C'est exactement ça. Et puis je pense que vous prendrez autant de plaisir que nous à revoir ces films et à construire cette programmation, parce qu'en fait, on s'est quand même bien éclaté, quoi. Je pense qu'il y a vraiment un truc. Enfin, c'est fun, quoi.
Oui, et ça se sent d'ailleurs.
On en a besoin un peu de fun en ce moment.
Oui, mais en parlant de fun, cher Laurent, gardez la parole et dites-nous ce qu'il y a à voir cette semaine sur les écrans. Scrutez-les.
L'ouvreuse scrute l'affiche canoise avec Autofiction, le nouveau film de Pedro Almodovar. C'est l'histoire de Raoul, un cinéaste culte en pleine crise créative, il n'a pas tourné depuis 5 ans. Lorsqu'un drame frappe l'une de ses proches collaboratrices, il s'en inspire pour écrire son prochain film et peu à peu il imagine Elsa, une réalisatrice en pleine écriture dont le parcours commence à refléter le sien. Les deux cinéastes deviennent les deux facettes d'un même personnage dans un jeu de miroir où l'impudeur de l'autofiction dévoile autant qu'elle détruit. Mais jusqu'où peut-on aller pour raconter une histoire? Le cinéaste espagnol interroge sa propre inspiration à travers donc ce personnage d'un auteur en crise, interprété par Leonardo Barraglia. Autofiction, le 23e long métrage de Pedro Almodovar, est aussi le 7e à concourir pour la Palme d'Or à Cannes depuis Tout sur ma mère en 1999, qui avait eu le prix de la mise en scène, et fait l'objet d'une sortie simultanée donc sur tous les écrans français. En presque 50 ans d'activité, l'œuvre bariolée du plus célèbre cinéaste espagnol a connu bien des phases, de la comédie piquante des débuts à la tentation plus récente du mélodrame. Toutefois, depuis Douleur et gloire en 2019, son cinéma est entré dans une zone de turbulence et de remise en question, où l'artiste de 76 ans se cherche de plus en plus parmi ses dispositifs de fiction. Alors, Autofiction l'atteste une nouvelle fois, par sa tournure qui est vraiment scindée et réflexive. Il y a 7 ans, Douleur et gloire avait bouleversé, au point qu'on avait pardonné à Almodovar d'écrire sur lui-même. C'était fait avec grâce et magie. Rappelez-vous, ce film racontait la vie de Salvador Malo, un cinéaste en déclin qui se remémore son enfance dans les années 60. Donc, s'il reprend donc le principe autofictionnel, jusque dans son titre d'ailleurs, Autofiction est pourtant d'un autre calibre. Ici, le cinéaste de substitution n'est pas en rémission, il est en panne sèche, et pour s'en sortir, il s'accapare l'histoire et les émotions de ses proches, comme peuvent le faire beaucoup d'artistes. Et pour son nouveau scénario, il s'invente donc cet alter ego, Elsa, qu'il va regarder comme ça s'enfoncer dans la dépression et s'effondrer à Lanzarote sur un lit couvert de manteaux. Sauf que l'on découvre rapidement que ce personnage d'Elsa, comme je l'ai dit, il est inspiré des douleurs réelles, des amis du cinéaste. Elle a des migraines comme l'une, elle porte le deuil comme l'autre et pleure un enfant mort d'une troisième. C'est donc le principe d'autofiction. Tout est beau et moche à la fois, lumineux et triste. Contrairement à Douleur et gloire, Almodovar ne cherche plus l'apaisement, faisant défiler bien sûr ses complices, ses muses, ses actrices, ses chansons, pour poser la seule question qui vaille: au fond, de quoi ai-je vécu? Quelle douleur des autres ont nourri mon art? Question que beaucoup d'artistes peuvent se poser. Dans tous les domaines d'ailleurs. À noter que l'affiche, qui est une très belle affiche, qui est une silhouette comme ça évoquant celle d'Almodovar dans le prolongement d'une figure féminine, manière de faire du cinéaste une icône aussi identifiable qu'Hitchcock et son profil reconnaissable entre mille. Donc vous l'avez compris, Autofiction parle de la création et de la manière dont le cinéma est dans l'œuvre de l'espagnol à la croisée de l'intime et de la projection fantasmatique. Guillaume et Laetitia, avez-vous aimé?
Alors, Nombril de mille feux, titré Libération ce matin, moi je me suis un peu perdu. Vous l'avez dit, Laurent, couleurs flamboyantes, superbe scénographie, photographie, musique excellente. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais film élaboré en spirale autour du gouffre de la création. Écrire ou crever, crever ou écrire, où les moindres lieux du quotidien resplendissent dans ce film, comme dans un mélo de Douglas Sirk, qui est le modèle éternel. À noter que Raoul sort d'une salle de cinéma à un moment donné dans le film qui projette le voyeur. Peut-être le personnage de Raoul se nourrit-il aussi de l'expérience des autres, comme dans le fameux film de Michael Powell, c'est la question. Et avec peut-être ce message, un cinéaste ne sait jamais qu'il est au sommet de son art, le temps de s'en rendre compte, c'est peut-être déjà passé, Laetitia.
Moi, de mon côté, j'ai beaucoup aimé le stylisme, et après on voit qu'Almodovar met en lumière en fait ses acteurs et actrices. Mais après, au niveau de l'histoire, je rejoins Guillaume, pour moi c'était comme s'il assemblait un puzzle. Il n'y avait pas forcément de continuité. Enfin, je pense qu'il avait une idée en tête. et qu'après il n'a pas forcément eu le résultat, je pense, qu'il souhaitait, qu'il avait vraiment envie de montrer. Mais après, oui, il y a toujours le stylisme et les couleurs qui sont belles chez Almodovar.
Donc, si j'ai bien compris, vous ne discerneriez pas la palme si vous étiez dans le jury.
Non.
Ce ne serait pas lui.
Alors, juste pour ajouter, avant que vous parliez des avis de la presse, c'est que par rapport aux notes qu'il a obtenues par les critiques cannoises,
oui,
il est entre 4, le maximum, et 1. Ah oui. C'est-à-dire presque le minimum. Donc, sera-t-il au palmarès ? Eh bien, on attend samedi.
On le saura samedi soir, oui.
Oui.
Petite revue de presse sur ce film, un nouveau tournant spectaculaire dans l'œuvre du maître selon Télérama. Almodovar réussit encore à surprendre et toucher avec ce récit en forme de mise en abîme selon Avoir à lire. Télérama n'a pas aimé un simulacre de cinéma almodovarien, il fallait le dire. Critica n'a pas aimé non plus une belle critique. On a l'impression de voir une rockstar débarquer à Cannes pour rejouer ses tubes les plus connus avec des micro-variations, mais dont la voix n'a plus la vigueur du passé. Ça revient un peu peut-être ce que vous avez dit.
C'est féroce.
Ouais, c'est bien tourné.
Peut-être que je travaille à Critica.
Ouais, ouais, mais envoyez votre CV.
Il va falloir aiguiser votre plume, cher Guillaume.
À l'affiche aussi cette semaine, une affiche non cannoise, on peut voir Les Goûteuses d'Hitler de Silvio Soldini au CGR Rodez, histoire de femmes qui étaient engagées bien malgré elles pour goûter les plats avant de les donner à Hitler. On peut voir aussi Vanilla de Meira Hermosillo à l'American Cosmographe. On peut voir Histoire parallèle d'Ashkar Faradi, qui est à Cannes en ce moment et qui est d'ailleurs parmi les favoris, hein, selon mes sources. On peut le voir au cinéma Pax à Lourdes ou à l'ABC à Toulouse. On peut voir aussi L'être aimé de Rodrigo Sorogoyen au Régent Saint-Gaudens, qui est à Cannes aussi et qui fait partie des favoris. Et que notre fidèle autrice Marie-Charlotte a vu. Qu'en avez-vous pensé, Marie-Charlotte?
J'ai été séduite par ce film. En plus, on est sur un plateau de cinéma, c'est une histoire magnifique. Le titre va si bien, c'est poétique. C'est vraiment un très très beau film.
Donc là vous discerneriez la palme, je pense.
Ah, je sais pas, j'ai pas su.
Oh, vous avez pas vu les autres.
Franchement, par rapport à c'est même par rapport à ce que j'ai vu toutes ces trois dernières semaines et un mois, c'est le top du top. Hein. Il est magnifique. Il y a des échanges de regards, il y a des silences qui disent tout. C'est très très beau.
Et à noter qu'on retrouve la même actrice dans le film d'Almodovar.
Oui, elle était là le soir même aussi, oui.
Laurent?
Oui, je pense que vous allez lui donner le nom.
Oui, attendez, je vais essayer de vous trouver le nom rapidement.
En tout cas, Javier Bardem risque peut-être d'avoir un prix d'interprétation masculine, puisqu'il est l'interprète principal.
Ah, lui, il le mérite à chaque fois, donc il est tellement bon.
C'est un rôle magnifique.
Ah, ça serait Barbara Leni ou Altaïna Sanchez, peut-être?
Non, c'est Victoria Luango.
Ouais, ben j'avais tout faux. À l'affiche aussi cette semaine, on en a parlé en début d'émission, mais Star Wars, bien sûr, vous n'y échapperez pas. The Mandalorian, un gros gus de John Favreau avec Pedro Pascal, un film d'horreur, messieurs, dames, épouvante, Passenger d'André Ovredal, et un film de science-fiction, un animé, All You Need Is Kill. Oui, Louis-Marie.
Allez, on joue à un tout petit jeu. Les musiques qui apparaissent dans des films qui ont obtenu la Palme d'Or. Eh oui, et ce titre fait partie d'une BO d'un film qui a obtenu la Palme d'Or. Allez, je vous aide, c'était en 95.
Underground. Costa Rica,
voilà, ouais,
chez vous. Ah oui, il fallait répondre. Je crois que c'était un jeu pour les auditeurs, en fait.
Vous pouvez, les auditeurs peuvent jouer, mais si vous répondez avant eux. Goran Bregovic.
Voilà. Vous avez mis un buzzer devant, c'était pas compris.
Hein.
Et Emir Kusturica remporté pour la deuxième fois une Palme d'Or, pile 10 ans après la première. Papa est en voyage d'affaires. Laurent.
Oui. Cannes encore, hein, parce qu'au Pathé Wilson, vous pouvez assister à des avant-premières, 9 films de la sélection officielle du 22 au 24 mai. Alors, il y a un film qui sera à Cannes première, c'est Si tu penses bien de Géraldine Nakache. Vous pouvez voir 6 films qui sont en compétition actuellement. Garance de Jeanne Héritch, Notre Salut d'Emmanuel Marais, L'Inconnu d'Arthur Hariri, Soudain de Ryosuke Hamaguchi, qui est d'ailleurs là aussi l'un des favoris, selon mes sources, notez bien, hein. Film japonais, Histoire de la nuit de Léa Missius et La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Taquet. Il y a même des films de la rubrique Un certain regard, il y en a deux. Vous pouvez voir Quelques mots d'amour de Rudy Rosenberg et Mémoire de fille de Judy Godrèche. Donc ça se passe au Pathé Wilson du 22 au 24 mai. Consultez vos sites favoris pour avoir les horaires.
Allez, là aussi, vous avez trouvé de quel film est issu cette BO, un film qui a obtenu lui aussi la Palme d'Or à Cannes.
La leçon de piano.
Oui.
Jeanne Campion,
de
seule femme à avoir eu la Palme d'Or pendant près de 30 ans avant Julia Ducorneau.
C'est la première à avoir
obtenu une seule Palme d'Or. Avant.
À jamais la première.
Oui, à jamais, oui, la première. À jamais la première. Elle avait reçu la Palme d'Or ex aequo, hein, avec Adieu ma concubine de Chen Kaige. La musique est composée par Michael Nyman, bien sûr. Allez, laissons le piano sur la plage pour partir avec les Boys de Grégory Com, notre homme de loi des séries, qui ouvre son tribunal pour vous.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, The Boys, une série tellement sulfureuse, arrive sur sa dernière saison et aujourd'hui, pour vous, j'ai utilisé ma pause repas pour regarder le dernier épisode et vous faire cette chronique à chaud, à très très chaud, de cette dernière saison. Et clairement, encore une fois, The Boys va se ranger dans les séries qui ont une dernière saison calamiteuse et un final tout juste passable. Alors, The Boys, c'est quoi ? C'était une série qui nous proposait d'être dans un univers super-héroïque, mais différent. Quand elle est arrivée, on était au pic de la mode des super-héros. Aujourd'hui, on en est plutôt sorti, et c'est une bonne chose, alors que je suis un grand fan de super-héros. Ça nous proposait un univers super-héroïque, mais désabusé, cynique, violent, où la sexualisation à outrance des super-héroïnes et des super était de mise. Où, en fait, nous avions une équipe de super-héros gérée par Homelander, une sorte de Superman, mais extrémiste, qui travaillait pour l'entreprise The Void, qui est en fait qui ressemble énormément à Disney, et qui en apparence étaient, sont des super-héros qui aident la veuve et l'orphelin, mais qui en fait ne sont que des produits marketing. Et derrière, évidemment, il y a des meurtres, il y a des viols, il y a tous les abus possibles et inimaginables. Et là-dessus, le personnage principal, Huggy, voyait sa petite amie tuée dans un accident par un super-héros, et évidemment, toute l'entreprise The Void couvrir cet homicide involontaire. Et Huggy rejoignait Butcher, joué par Karl Urban, qui dirige l'équipe des Boys, une équipe qui enquête sur les super qui dérivent et qui potentiellement cherche à les tuer et les neutraliser. Clairement, la saison 1 et la saison 2 ont tapé très très fort. On voyait vraiment de façon réaliste ce que serait le rôle de super-héros dans un monde comme le nôtre, c'est-à-dire avec tous les abus possibles et inimaginables, le fait qu'ils soient traités comme des rockstars, le merchandising. C'était excellent, c'était sulfureux, c'était une vraie critique de l'empire de Disney. Ça allumait tout le monde. Ça allumait les démocrates, ça allumait les républicains, parce qu'évidemment ça se passe aux États-Unis. Ça allumait les fans de comics, ça allumait ceux qui sont anti-fans de comics. Vraiment, tout le monde y passait. Et on allait de plus en plus sur des scènes gore et odieuses. Mais toujours avec un propos intelligent. Puis la bascule arrive à partir de la saison 3, où on se rend compte qu'en fait, la série est trop longue pour elle-même. Alors elle est adaptée d'un comics, un comics qui est assez long, mais à partir de la saison 3, elle dérive énormément et n'adapte plus véritablement le comics. C'est une de ses erreurs. Encore une fois, elle a voulu faire mieux que le comics, elle a fait moins bien, car le comics a un final assez extraordinaire. Derrière... cette série nous met toujours le pitch que Homelander, une sorte de Superman donc méchant, pourrait à tout moment péter un câble, tuer la moitié de la planète et devenir un dictateur. Et en fait, c'est là où ça pose problème, car à tout moment, il peut le faire, mais ils sont obligés à chaque fois de faire des entourloupes pour qu'il ne le fasse pas, pour que la série dure. Et clairement, à partir de la saison 3, c'est on nous dit « Attention, il va s'énerver, attention, ça va être compliqué. » D'ailleurs, la saison 3 se termine, on se dit « Là, c'est bon, il a vrillé, ça va partir en live. » Non, saison 4, on est à nouveau tranquille. Et à la fin de la saison 4, pareil, il s'énerve, oh là là, il va prendre le contrôle des États-Unis. La saison 5 va être exceptionnelle. La saison 4 était assez mauvaise, assez longue, mais on se dit, c'est pas grave, c'était transition. La saison 5 va être super. Surtout que derrière, on nous tease vraiment quelque chose d'apocalyptique. La pub est mensongère. On voit Homelander dans l'espace qui regarde des explosions atomiques. On voit The Void en ruine. Et on se dit, oh là là, ça va être formidable. Pas du tout. Encore une fois, on est sur de la hype. On essaye de nous dire ça va être génial et ça attend. On voit tous les épisodes de The Boys de cette dernière saison défiler. Il faut attendre l'avant-dernier épisode pour que ça s'enflamme. Et le dernier épisode arrive. Et oui, il y a l'affrontement. Mais au final, c'est très confidentiel. Toujours la même astuce. Alors, je pense qu'il n'y a pas le budget nécessaire. On nous fait passer les héros par des tunnels. Comme ça, on voit pas les combats qui peuvent se faire. Et finalement, c'est assez ridicule et convenu. Ils tentent de reboucler comme la fin du comics, mais c'est pas aussi bon. Donc, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas et pourquoi, comme Stranger Things, comme Game of Thrones, ils n'arrivent pas à conclure de façon intelligente? La première, c'est qu'on nous tease trop le méga événement. Ça va être génial, ça va être apocalyptique. Oh là 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 là, il va y avoir des morts. Oh là là, ça va être dramatique. Et finalement, en fait, c'est long, c'est lent, il se passe pas grand chose. Ensuite, la réalisation. Ben oui, une série télé n'a pas les mêmes moyens qu'un film. On peut pas faire un combat titanesque comme celui de Man of Steel à l'époque. Et c'est dommage parce que, en fait, c'est aussi un petit peu ce qu'on attend. Alors, il y a eu des séries qui ont réussi à faire des combats de fin plus confidentiels, mais émotionnellement énormes, mais la série se basait pas sur « attention, quand ça va arriver, ça va être génial ». Et donc, en fait, on nous a trop vendu, et le final est assez anecdotique pour une saison qui durait trop. En fait, à la fin de la troisième saison, il aurait fallu faire un téléfilm de 2 heures, et c'était largement suffisant pour tout conclure. Donc voilà ma critique de The Boys. Je suis même pas déçu parce que j'en attendais plus rien et je me doutais qu'on allait aller là-dessus épisode par épisode. Une série qui aura duré trop longtemps. C'est marrant parce que les films, on veut faire des trilogies, les séries télé pour dire qu'elles ont marché. Il faut faire 4 ou 5 saisons. Parfois 3 saisons, c'est bien. C'était trop long, c'était pas bon. Le spin-off qui ont été faits étaient nuls. D'ailleurs, la dernière saison de The Boys essaye de nous vendre un nouveau spin-off. Ça aussi, c'est une marotte des séries télé qui ne savent pas conclure. Franchement. Vous comprenez mon avis, votre temps est précieux, cher auditeur, chère auditrice, passez-le à regarder autre chose que The Boys. C'est au final très convenu, ça se veut pamphlet politique et c'est juste une caricature d'elle-même. Je vous remercie.
Eh bien, vous n'avez plus qu'à suivre les conseils de notre homme de loi des séries, c'est réglé.
Les séries télé sont comme Jean-Claude Duss, ça n'arrive pas à conclure.
Exactement.
Et on peut voir cette série sur Prime Video depuis 2019.
Bond, James Bond, et vous êtes sur Présence, Radio Présence.
Allez, pour les reprises sur le grand écran, on va voir des films qui n'ont pas été récompensés à Cannes, mais qui ont tous obtenu un Oscar. Ce qui est pas mal du tout, d'ailleurs. Et celui-là, la musique, l'avez-vous reconnu ? C'est compliqué. Hein. C'est quand même Hans Zimmer qui a écrit cette musique pour le film de Bruce Beresford.
Daisy et son chauffeur.
Miss Daisy et son chauffeur. L'histoire de donc Miss Daisy, qui est une vieille dame qui n'arrive plus à conduire sans avoir d'accident. Alors son fils lui trouve un chauffeur. Le problème, c'est qu'on est dans le sud des États-Unis et qu'il lui trouve un chauffeur noir. Qu'elle est raciste. Et puis ils vont rester quand même 22 ans ensemble. Lui au volant et elle sur la banquette arrière. Extraordinaire. Il y a Jessica Tandy dans ce film-là. C'est la grand-mère, une formidable actrice américaine. Et le chauffeur, c'est Morgan Freeman. Ça, c'est bien. Hein. Vous pouvez voir le film au Pathé Wilson. Donc le film, je le disais, avait obtenu l'Oscar en 1990, c'est au Pathé Wilson, donc demain jeudi 21 mai à 14h30, toujours au Pathé Wilson, un autre film qui a obtenu plein d'Oscars, lui aussi, quelques-uns, en tout cas celui du meilleur film et du meilleur acteur, c'est Forrest Gump de Bob Zemeckis, avec Tom Hanks, Gary Sinise et Robin Wright. Tom Hanks est égalé, comment s'appelait est-il ce grand acteur hollywoodien qui avait eu deux Oscars d'affilée en 1936 et en 1937, et Tom Hanks était le premier après lui à avoir deux Oscars d'affilée, puisque l'année avant Forrest Gump, il l'avait obtenu pour Philadelphia.
Ah oui.
Et très très fort.
La musique de Bruce Springsteen.
Exactement. Voilà,
la chanson seulement, hein, Philadelphia. Ouais. Seulement la chanson. Robert Zemeckis, donc vendredi 22 mai en VO à 19h30 au Pathé Wilson. Et puis un autre film qui a obtenu lui aussi des Oscars en 1999, c'est le film de John Madden, Shakespeare in Love. Ce sera en VO aussi lundi 25 mai à 18h. Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Colin Firth. Gwyneth Paltrow obtenait l'Oscar de la meilleure actrice dans un premier rôle. C'est, je vous l'ai dit, lundi 25 mai, 18h en VO au Pathé Wilson. Et sinon, à la beige, un autre film multi-récompensé aux Oscars, La La Land, 2016, Damien Chazelle.
Avec cette ouverture en plan séquence sur les bretelles de Los Angeles, magnifique.
Pour la lessive, oui.
Assez extraordinaire. Pratiquement entre 9 et 10 minutes de plan séquence. Vous pouvez le voir donc jeudi 21 mai à 19h30 en VO au cinéma Pathé Labège, mais aussi au cinéma Pathé Wilson à la même heure. Et puis, alors là, lui, il n'est pas américain, mais il est français et il a obtenu plein de Césars également. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'était en 2001, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus, ce film de Jean-Pierre Jeunet qui avait laissé tomber Caro. Voilà, il l'a réalisé tout seul, lundi 25 mai à 19h30, donc au cinéma Pathé Labège. Voilà pour le grand écran. C'est à vous, Laurent, sur le petit.
Le cinéma à télévision avec Tapis Rouge, ça commence ce soir. Alors, si vous avez Canal+, vous pourrez voir le documentaire Sacré-Cœur de Steven et Sabrina Guenel, à travers reconstitution et témoignage, l'histoire de Sainte Marguerite Marie, religieuse du couvent de la Visitation à Paris-le-Monial. À travers son destin se révèle le culte du Sacré-Cœur de Jésus, dont elle eut la révélation au XVIIe siècle. Sinon, sur Arte, à 21h, le procès Goldman de Cédric Kahn avec Harry Voltalter. Rappelez-vous, 1974, Pierre Goldman est inculpé à perpétuité pour 4 agressions à main armée. Un film impressionnant, de bout en bout. Jeudi, sur Novo 19, à 21h, on pourra revoir Mad Max Fury Road de George Miller, en 2015 déjà, avec Tom Hardy et Charlize Theron. Après plus de 30 ans d'absence, la saga culte est réactivée avec brio par son créateur Georges Miller. Vendredi 21h, ce français, The Old Oak de Ken Loach, dans une ville du nord de l'Angleterre, TG, propriétaire du pub local, se retrouve face à un bouleversement inattendu lorsque des réfugiés syriens arrivent dans sa communauté. Les avis sont partagés sur cet accueil, un film cruellement d'actualité. Samedi, France 4, 21h, ce sera le temps d'aimer de Katel qui y est béré. En 44, Madeleine subit le poids du jugement populaire après avoir entretenu une relation avec un soldat allemand. Son père la renie. Une très belle réussite, hein, portée par les impeccables Anaïs de Moustier et Vincent Lacoste. Dimanche, sur Arte à 21h, à ne pas manquer, Mississippi Burning d'Alan Parker avec Willem Dafoe et Gene Hackman. Trois activistes noirs sont tués. Ces meurtres marquent le début de l'enquête, d'une des enquêtes les plus explosives de l'histoire, hein, menée par deux agents du FBI qui ont devoir faire face à une explosion de violence raciale. Nous sommes dans le sud, bien sûr, des États-Unis. Inspiré de faits réels, hein, pour l'art efficace et doublé d'un réquisitoire antiraciste implacable et remarquablement interprété. Lundi, Arte 20h55, un grand classique. On pourra revoir Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle.
Avec la musique avec de Miles Davis.
Exactement. Ouais. Avec Jeanne Moreau et Maurice Ronet. Un film noir, envoûtant, superbe et soutenu donc, par l'inoubliable musique de Miles Davis et des interprètes remarquables. Le conseil Blu-ray, ce sera Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chaumet. Il vient juste de sortir là, le 15 mai. Dans ce film d'animation très attendu, Sylvain Chaumet rend un vibrant hommage à l'un des plus grands écrivains français, Marcel Pagnol, de son enfance marseillaise, à ses plus grands succès littéraires et cinématographiques. Un Blu-ray que vous retrouvez aux éditions Wildside Vidéo pour 19,99€. Tenez Charlotte, je vous l'offre. Voilà pour le cinéma, la télévision, cette semaine.
I can never have children. We can adopt some. But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect.
L'éclat de rire final, c'est l'éclat de rire final. Juste avant de jouer à notre jeu de « Je reconnais les musiques des films récompensés » pour revenir à l'éclat de rire final de Certains l'aiment chaud, ce fameux « Nobody's perfect ». Je me souviens de la première fois où je l'ai vu. C'était un cinéma qui n'existe plus maintenant dans Toulouse. Le Sainte-Anne, il y a bien longtemps de ça. Et on attendait pour la séance de 22h, 22h30. Voilà. Et on attendait et le film n'était pas encore fini de la séance précédente. Et la grand-mère, ils étaient deux, grand-mère et grand-père, étaient à l'entrée pour les billets. Non, ça, le film n'est pas fini. Non. Et puis un moment, ça éclate dans la salle, un éclat de rire monstrueux. Et là, elle dit, c'est fini, ils vont sortir, vous allez pouvoir rentrer. Et on a compris, en voyant le film, pourquoi ils avaient autant. Nobody's perfect. Pourquoi? Ben parce que, eh ben, ils se font passer pour des joueuses de jazz. Oui. Jack Lemmon et Tony Curtis, dans Certains l'aiment chaud, ils sont habillés en filles. Et Jack Lemmon séduit un homme. En tout cas, c'est l'homme qui accroche. Alors, ouais. Il essaye de s'en défaire, vous l'avez entendu. Je peux pas avoir d'enfant, on en adoptera un, puis il renonce, il dit, je suis un homme. Bon, oui, mais personne n'est parfait. Exactement. Un monument. Alors, un mot sur cette musique. Angelo Badalamenti pour David Lynch, c'est l'or et Lula, c'était en 1990, Palme d'or. Et oui, que je n'avais pas vu venir quand j'ai fait ma chronique à l'époque depuis Cannes, en disant que le film ne serait pas au palmarès. Depuis, David Lynch m'a écrit et m'a consolé. Parce que je m'étais trompé, mais lourdement. Franck Lubé, oui. Billy Wilder, un mot, un seul.
Peut-être personne n'est parfait, mais son cinéma l'est.
Oui.
Joli.
Ah, exactement.
Voilà.
Et puis, on a parlé de Rossi de Palma, on a parlé d'Anya Breyen, on a parlé de Billy Wilder, le pop, et c'est Jun Suzuki, dernière programmation.
Oui, c'est Jun Suzuki. Alors, peut-être pour aller très vite, un cinéaste japonais qui a réussi le tour de force, donc il est actif dans les années 60, de se faire virer, en fait, du studio pour lequel il travaillait, la Nikkatsu, au prétexte que ses films étaient incompréhensible. Donc pareil, ça c'est autrement, on va dire, génial que Billy Wilder, mais c'est vraiment à voir. C'est cinéma type film de Yakuza et c'est Jun Suzuki, en fait, explose complètement les codes narratifs. Peu importe ce qu'il raconte, c'est très visuel, un gros travail sur la photographie, sur les cadres, sur les mouvements. C'est juste incroyable. Donc là, si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à voir. C'est parce que vous vous en souviendrez tout le temps. Il y a rien qui ressemble à du Seijun Suzuki que du Seijun Suzuki. C'est assez fun aussi. C'est peut être très violent aussi par moment, mais c'est vraiment hors du commun. Donc à voir. Là, c'est sa période la plus folle. Hein. Il a fait plus de 40 films en 10 ans. Donc là, on est sur une dizaine de films. C'est sur la fin de sa période avec la Nikatsu, avec le studio, avant qu'il se fasse virer et blacklister par tous les autres studios. Et c'est la période la plus folle et la plus inventive. Aujourd'hui, c'est un cinéaste qui est absolument culte. Hein. Jim Jarmusch, Quentin Tarantino se revendiquent de lui et j'en passe. Hein. À voir absolument.
Seijun Suzuki, c'est jusqu'au 28 juin. On a le temps de découvrir des films. La Cinémathèque de Toulouse.com. Merci Franck Lubé. Une dernière Merci petite devinette. Et puis nos coups de cœur. Ça, c'est du velours.
Ouais. Alors, Bernard Herrmann, Taxi Driver, 50 ans déjà le film.
Et oui, c'était en 1976, la Palme d'Or de Martin Scorsese avec son acteur fétiche Robert De Niro. Messieurs, quels sont vos coups de cœur?
Moi, j'irai voir Suzuki en moto. Et la Cinémathèque. Et on peut voir Autofiction, L'être aimé et la Cinémathèque. Consultez le programme, vous trouverez sûrement votre bonheur.
Et la Cinémathèque de Toulouse.com. Autofiction, L'être aimé, évidemment, toute la programmation de la Cinémathèque Pop, Billy Wilder, évidemment, Brian Suzuki, Rossi de Palma. Et puis la 79e édition du Festival de Cannes qui se poursuit jusqu'à samedi soir.
Il a un cœur énorme, Guillaume Sidom, énorme. Il y rentre plein de choses dedans. Autofiction, L'être aimé, Miss Daisy et son chauffeur. Et rappelez-vous, en 2018, le film de Peter Farrelly, Green Book, où c'était exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'était le joueur de musique noir américain qui était conduit par un blanc, Viggo Mortensen, qui était au volant. Et le Green Book, c'était le guide touristique des Noirs pour qu'ils puissent aller dans des endroits où ils sont susceptibles d'être accueillis. C'était en 59, hein, c'était le moment de la belle ségrégation aux États-Unis. Merci encore, Franck Lubé.
Merci à vous, toujours un plaisir d'être là.
On ira tous à la Cinémathèque, évidemment, et puis on va profiter des belles salles qui nous sont proposées. Il y en a deux qu'on connaissait déjà, mais il y a la nouvelle, pratiquement sans place, qui est sublime. Merci, Franck Lubé. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine.
Tous les matins, l'évangile du jour est commenté par un prêtre de la région.
L'évangile.
Un rendez-vous pour se nourrir et se ressourcer à 6h50, 7h50 et 8h50.